Et comme vous l'indiquiez, professeur, on va continuer avec le docteur Antoine Garnier-Crussard. Donc vous êtes effectivement gériatre au Centre Mémoire Ressources Recherche, rattaché aux Hospices Civils de Lyon. Et en fait, on a parlé de la maladie d'Alzheimer, mais il existe d'autres maladies dont on parle peut-être un petit peu moins ou qu'on connaît moins. Et donc vous allez nous expliquer tout ça.
Je vous remercie. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux d'être ici pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, ça fait 14 ans que je vis à Lyon et je n'étais jamais rentré dans une si belle salle pour l'instant. Donc c'est l'occasion de découvrir ces lieux. Et puis ces demi-journées, j'avais eu la chance d'y participer déjà il y a 2 ans. Je pense que c'est très très important et intéressant de pouvoir échanger avec tout le monde directement pour qu'on essaie le plus possible de vous donner des éléments de nouveauté, d'actualité, et puis qu'on partage le langage et les choses évoluent beaucoup. Le professeur Dubois en a bien parlé. Qu'est-ce que c'est qu'une démence? Pourquoi aujourd'hui on n'emploie plus bien ce terme? Quels sont le raisonnement aujourd'hui d'aller plus tôt dans le diagnostic? Et donc c'est très important de le partager. Je vais essayer de répondre à la question qui m'est posée, et je mets un chronomètre. Il s'agissait de parler des maladies dites apparentées à la maladie d'Alzheimer, et je me suis permis de le mettre en guillemets, parce que l'objet de mon propos sera aussi donc de parler du contenu de certaines de ces maladies, et puis d'essayer de tourner la page de ce mot de maladie apparentée, puisque peut-être qu'on pourrait tout simplement les appeler par leur nom, puisque maintenant on connaît le nom de ces maladies. Donc je m'appelle Antoine Garnier-Crussard, je suis en effet gériatre, je travaille au Centre Mémoire Ressources Recherche de Lyon, à l'Institut du Vieillissement des Hospices Civils de Lyon, et j'ai également une activité de recherche autour de la maladie d'Alzheimer notamment, et donc de ces fameuses maladies dites apparentées. Je me permets de déclarer des liens d'intérêt qui ne sont pas d'ordre financier. Je suis investigateur dans certaines études, notamment des essais thérapeutiques. Certains résultats qu'a présenté le professeur Dubois, notre centre participe à ces études, mais je n'ai aucun lien financier avec ces industriels, et donc dans ce sens, ça n'influence pas, je crois, la teneur de mon propos. Mais c'est quand même bien de le déclarer, je crois. Alors, on va essayer, en une vingtaine de minutes, de répondre à ces questions. Je vous prie de m'excuser, tous les gens qui sont de ce côté, je vous tourne un peu le dos. En fait, c'est tout simplement pour voir ce qui est écrit sur les diapositives. Je suis obligé de tourner ma tête vers l'écran, et voilà. Mais je vous regarderai de temps en temps. On va essayer de répondre à 3 questions. Déjà, existe-t-il d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer qui affectent les fonctions cognitives? Par exemple, la mémoire dont on a parlé, mais il y a d'autres fonctions cognitives. Bon, la réponse, c'est oui, on va aller vite. Mais je vais un peu vous expliquer le raisonnement. Pourquoi est-ce essentiel de le différencier? Pourquoi il n'y a pas une grande maladie qui est la maladie d'Alzheimer et ses petites sœurs qui affectent la mémoire au cours du vieillissement? Et je vais essayer de vous convaincre que c'est très important de les différencier, puisqu'en fait, ce sont des maladies assez différentes. Certains symptômes sont en commun, par exemple le trouble cognitif, mais il y a des symptômes spécifiques de ces maladies, et mal les reconnaître, ça ne permet pas d'informer les gens, de comprendre les symptômes, et on peut souvent les prendre en charge de manière assez spécifique. Donc j'essaierai de vous convaincre que c'est important de les différencier. Et puis après, on se posera la question, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement ne plus employer cette terminologie de maladie apparentée? Et puis je donnerai quelques exemples de patientes et patientes. Alors, existe-t-il d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer? Oui. J'ai la chance de passer après le Bruno Dubois qui vous a expliqué aussi la démarche médicale. On parle d'abord de symptômes, d'un phénotype clinique, par exemple un syndrome amnésique, des oublis, qui dans certains cas peuvent être dans le contexte d'une maladie spécifique, par exemple la maladie d'Alzheimer. Toutefois, ces deux relations peuvent être dissociées. Un syndrome amnésique peut aussi ne pas être en lien avec une maladie d'Alzheimer. On a pris l'exemple de la dépression ou d'autres maladies. La première étape en tant que médecin, c'est de faire le diagnostic du syndrome. Un syndrome, c'est une association de différents symptômes. On en a habituellement 3, la plainte cognitive isolée, c'est on se plaint mais finalement les tests sont tout à fait rassurants. Le trouble neurocognitif mineur, qui veut dire qu'il y a un déficit cognitif, donc la mémoire n'est pas aussi bonne qu'attendue, mais toutefois ça ne retentit pas sur l'autonomie, l'indépendance, c'est l'équivalent de la phase prodromale qu'a décrit le professeur Dubois. Et enfin, le trouble neurocognitif majeur, c'est le terme international qui a donc remplacé le mot démence qu'on essaie de ne plus trop employer, mais qui veut dire la même chose, c'est-à-dire que les difficultés cognitives en viennent à retentir sur le quotidien. Il y a besoin d'aide pour faire des tâches du quotidien. Voilà donc la première étape. Et là, vous voyez, je n'ai pas parlé de maladie. Tous ces syndromes peuvent être dus à plein de maladies, dont, en effet, la plus fréquente est la maladie d'Alzheimer, mais il y en a d'autres. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent affecter le cerveau, des maladies des vaisseaux du cerveau, l'accident vasculaire cérébral, les accidents vasculaires cérébraux quand il y en a plusieurs, ou même parfois des maladies infectieuses, des maladies du système immunitaire qui s'attaque lui-même contre le cerveau, d'autres maladies. Et donc, finalement, il n'y a pas du tout que la maladie d'Alzheimer qui donne des troubles neurocognitifs. Et donc la rigueur du diagnostic en ces 2 étapes permet d'avoir souvent les bons diagnostics. Alors, Si on a parlé de la maladie d'Alzheimer comme une maladie simple et stéréotypée avec une évolution qui touche d'abord, comme disait M. Dubois, les régions temporales internes, la région de l'hippocampe, cette boule qui permet de faire la porte d'entrée vers le cerveau, puis s'étend vers les autres régions du cerveau en parallèle que les difficultés cognitives augmentent, finalement, en réalité, c'est une maladie qui est appelée complexe et multifactorielle parce qu'il y a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Cette diapositive, je vous préviens, est peut-être un petit peu barbare, mais je vais essayer de la simplifier. Premièrement, le premier acteur de ce tableau, c'est des protéines. On a tous plein de protéines dans notre organisme, c'est grâce à ça qu'on vit, et certaines deviennent anormales et entraînent une dysfonction des neurones. C'est en fait la cause de presque toutes les maladies neurodégénératives, que ce soit la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou les autres dont je vais parler. Donc d'abord, il y a des protéines. Peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces noms, mais les deux qu'a décrit le professeur Dubois, c'est la protéine tau, la protéine amyloïde, les deux les plus fréquemment rencontrées, ou en tout cas qui permettent de définir la maladie d'Alzheimer. Mais il y a d'autres protéines, TDP43, alpha-synucléine, FUS, etc., qui entraînent d'autres maladies neurodégénératives. Donc le premier acteur, les protéines. Deuxième acteur, les vaisseaux. J'ai parlé tout à l'heure des accidents vasculaires cérébraux. Notre cerveau, nos neurones, notre substance blanche a besoin de sang qui apporte de l'oxygène, du sucre. Ces vaisseaux peuvent être abîmés. L'âge est aussi un facteur de risque d'atteinte des petits vaisseaux. Et donc, la fragilité des vaisseaux conduit à entraîner des troubles cognitifs. Donc, c'est un autre acteur qui va permettre le diagnostic. Et enfin, et peut-être le plus important, c'est que bien sûr, on parle de ce qui est tout petit dans le cerveau, mais il y a aussi des personnes derrière ça. Et on ne pourra jamais résumer un malade d'Alzheimer à une protéine qui n'est pas normale. Parce qu'il y a un patient avec son histoire, tous ses autres problèmes de santé, comment est le moral, comment est la famille, quelles sont les autres pathologies qu'il a, est-ce qu'il a 10 médicaments, est-ce qu'il a un seul médicament, est-ce qu'il a des capacités de résilience ou de résistance, c'est-à-dire que face à une même agression de l'organisme, par exemple une agression du cerveau par des protéines anormales, deux personnes vont se comporter très différemment parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources, surtout biologiques, qui nous permettent de lutter contre, de faire face à la maladie. Et donc finalement, simplement le message de cette diapositive, c'est qu'on est dans des situations complexes, multifactorielles, et donc c'est très difficile parfois de faire entrer l'individu dans une case très précise, et d'ailleurs c'est pas ce qu'on nous demande, heureusement. Alors puisqu'il faut parler des maladies dites apparentées, je vais parler de trois maladies qui sont finalement les plus fréquentes, dans leur rareté quand même, et dont on parle plus, et en essayant de m'affranchir de faire une liste très pénible des symptômes des différentes maladies, déjà parce que ce n'est pas votre rôle de connaître les symptômes pour faire un diagnostic, en revanche c'est le rôle des médecins, mais toutefois il y en a qui sont caractéristiques et importantes. Je parle de la maladie à corps de Lévy, c'est son nom, ou maladie à corps de Lévy diffus, qui est une maladie étonnamment peu connue. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Certains d'entre vous, peut-être, n'en ont pas jamais entendu parler. Et pourtant, c'est la deuxième maladie neurodégénérative qui affecte la mémoire, les fonctions cognitives, la plus fréquente. On estime qu'il y a 150 à 200 000 personnes en France qui sont atteintes. Les symptômes sont assez aussi stéréotypés et il est essentiel de la reconnaître parce que certains symptômes peuvent être très angoissants pour le patient, la patiente et puis pour ses proches. Et puis on a des mesures spécifiques qui peuvent aider le patient et ses proches, sa famille, ses amis, son entourage à mieux vivre cette maladie. Et il y a des caractéristiques qui sont extrêmement différentes de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est très important de la reconnaître. Je ne vais pas rentrer dans le détail des critères. Ce qu'on voit en haut à droite, donc c'est M. Lévy qui a décrit cette maladie. Et ensuite, vous voyez une coupe d'un neurone et on voit un corps qui est montré par la flèche verte, qui est un corps de Lévy. Et ces corps de Lévy, en fait, on les retrouve dans une autre maladie que vous connaissez bien, qu'on connaît tous, qui est la maladie de Parkinson. Quand on regarde le cerveau, c'est la même lésion, sauf qu'elle ne se situe pas au même endroit. Et quand elle est diffuse et qu'elle touche notamment le cortex, ça donne des signes de la maladie à corps de Lévy, qui sont des signes dans la forme typique très caractéristique. Il y a donc des difficultés cognitives, il y a des difficultés de sommeil, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, avec des nuits particulièrement agitées, beaucoup de cauchemars et un symptôme qui est fréquent, qui est très caractéristique, qui s'appelle les hallucinations visuelles récurrentes. Donc ce sont des hallucinations, voir des choses que les autres personnes ne voient pas, souvent des animaux, mais pas forcément des personnes, par exemple des personnes de petite taille, des enfants, et on peut très bien décrire, docteur, j'ai des oublis, et en plus, il se trouve que le soir, dans ma chambre, il y a trois enfants qui viennent, qui restent à côté de moi sur le lit. Et voilà le symptôme de cette maladie qui s'appelle la maladie à corps de Lévy. Ce sont des phénomènes qui existent aussi parfois dans la maladie d'Alzheimer, mais de façon très différente, plus tardive et plus rare. Donc il faut vraiment la reconnaître. Et il y a un autre symptôme dans la forme caractéristique, qui est ce qu'on appelle le syndrome parkinsonien. Donc certaines caractéristiques motrices qui font penser à la maladie de Parkinson, notamment une rigidité, parfois une lenteur à la marche, à l'élocution, et puis des tremblements. Voilà les caractéristiques principales, et puis parfois d'autres marqueurs d'imagerie pour lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, vous imaginez, 150 à 200 000 personnes en France, il est essentiel de la connaître. Tout à l'heure, c'était très net la diapositive Alzheimer versus cancer, à quel point on met de l'énergie dans les cancers et on en met moins dans la maladie d'Alzheimer. Et si on poursuit la diapositive pour la maladie à Cordelévy, ben là, ça devient tout, tout petit. Et je ne sais pas combien d'argent investi pour la recherche dans cette maladie qui touche, encore une fois, 200 000 Français. Donc, premièrement, maladie à Cordelévy, la, peut-être la plus importante, puisque la plus fréquente, après la maladie d'Alzheimer. Et puisqu'on est à Lyon, je parle d'une étude qu'on est en train de monter qui s'intéresse à un noyau très précis dans le cerveau qui pourrait expliquer certaines de ces manifestations neuropsychiatriques de la maladie, comme les hallucinations, les nuées agitées. Donc, ce sera une étude qui commencera, je l'espère, en 2024. Je vais parler d'un grand groupe très hétérogène de maladies qui sont les dégénérescences lobaires fronto-temporales. On ne va pas rentrer évidemment dans le critère, on ne va pas rentrer non plus dans l'histoire de ces maladies. Sachez qu'une partie de ces maladies, un temps, a été appelée maladie de Pick. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom. Le professeur Dubois parlait des... À l'époque, moi, je n'ai pas connu la démence sénile. On était dément parce qu'on prenait des années, ce qui aujourd'hui n'est plus du tout de la conception actuelle. Et quand on avait ces maladies, mais en ayant moins de 65 ans, on avait soit une maladie d'Alzheimer, soit une maladie de Pick. Cette maladie de Pick est en fait un groupe de dégénérescence frontotemporale, qui est une maladie neurodégénérative, qui touche dans la forme comportementale, c'est ce que je mets en haut, essentiellement le lobe frontal et le lobe temporal. C'est le lobe qui permet de contrôler les comportements et de réaliser les tâches cognitives les plus complexes. Et les symptômes de cette maladie, qui touchent souvent des gens un petit peu plus jeunes en moyenne, puisque souvent le début des symptômes est avant 65 ans, ce sont des modifications du comportement avec de la désinhibition, une diminution de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à comprendre, à souffrir pour les autres, à souffrir avec les autres. Des comportements très stéréotypés, persévératifs, parfois de l'hyperoralité, avec un autre mot qui s'appelle la gloutonnerie, des comportements alimentaires modifiés, et donc une perte parfois des convenances sociales. Par exemple, je suis au restaurant et mon épouse est allée aux toilettes et pendant qu'elle était aux toilettes, j'ai mangé son assiette. C'est en effet une convenance sociale. Je ne suis pas arrivé à inhiber parce que c'est le lobe frontal qui inhibe ses comportements. Et donc, cette hyperoralité est un des symptômes caractéristiques de la maladie. Vous comprenez bien dans cet exemple qu'il y a besoin de faire un diagnostic et d'expliquer à l'épouse que s'il a mangé son assiette, c'est pas que c'est un impoli, c'est qu'il a une maladie qui l'a empêché de contrôler son comportement. Donc vous voyez un impact essentiel du diagnostic. Et ce n'est pas la maladie d'Alzheimer, ça n'a rien à voir. Et il y a d'autres formes de cette maladie qui touchent surtout le langage, des difficultés à produire les mots, parfois à comprendre, à connaître les concepts, les sémantiques, qu'est-ce que l'Australie, où est Paris, toutes ces grandes connaissances sur le monde qui peuvent être atteintes dans ces maladies. Je ne vais également pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas parler de celle-ci, parce qu'on est le temps tourne et je crois que ça rajouterait de la complexité pour peu. Je voulais quand même en donner une dernière et je vous avais dit que l'objectif, c'était de ne pas faire un inventaire. Et là, j'ai l'impression que je fais un peu un inventaire. Donc, je vous prie de m'excuser, mais ce sera la dernière dont on parlera. Et je crois qu'il est essentiel d'en parler. On a parlé des actualités de la maladie d'Alzheimer. Il y a une actualité scientifique très importante qui est la description très formelle de cette maladie en 2019. Évidemment, ce n'est pas une maladie. En 2019, vous savez, il y a une maladie qui est apparue dans le monde, c'est le Covid. En effet, ça n'existait pas en 2018, c'est apparu fin 2019. Cette maladie n'est pas apparue en 2019, mais par contre, les scientifiques, les médecins, les radiologues, les psychologues, etc., se sont mis autour d'une table et dire, on a tous beaucoup de patients qui ressemblent à ça, c'est bizarre, ce n'est pas de la maladie d'Alzheimer, comment est-ce qu'on va l'appeler? Et donc, ils ont décrit une maladie qui, évidemment, existait déjà. Là, le nom est assez barbare, on utilise souvent l'acronyme anglais qui est LATE. Et LATE, ça veut dire encéphalopathie limbique, donc ça touche le cerveau. Encéphalopathie limbique, c'est des structures dans le cerveau qui gèrent notamment la cognition et les émotions. Encéphalopathie limbique à TDP43, c'est le nom de la protéine qui est impliquée, liée à l'âge, puisque c'est une maladie qui touche surtout des gens un peu plus âgés que les maladies que j'ai détaillées précédemment. Et cette maladie est très importante puisque donc il s'agit d'une accumulation anormale d'une protéine dans les régions notamment temporales, dans la région de l'hippocampe aussi, et un peu plus vers l'avant du cerveau, et qui donne des symptômes qui peuvent vraiment ressembler à la maladie d'Alzheimer. Et s'il est important d'en parler, c'est qu'elle est vraiment très fréquente. Si je dis qu'elle est fréquente, c'est qu'on estime qu'après 80 ans, il y a peut-être 20% qui, dans son cerveau, a des lésions de cette protéine. 20% des personnes, ça ne veut pas dire qu'ils vont mal, ça ne veut pas dire qu'ils ont des symptômes, mais si on regarde uniquement leur cerveau, ça touche une personne sur cinq. Et on estime aussi, ce qui est une estimation, ce n'est pas une mesure très précise, mais qu'à peu près 20% des personnes à qui on a dit « vous avez une maladie d'Alzheimer » avaient en fait cette maladie, puisqu'elles miment la maladie d'Alzheimer dans le sens où le symptôme principal sont des oublis, le fameux syndrome amnésique qui a été décrit tout à l'heure. Mais un point très important, c'est qu'elle évolue différemment de la maladie d'Alzheimer et habituellement, elle évolue beaucoup plus lentement. Elle touche souvent des personnes plus âgées, par exemple de 80, 85, 90 ans, et elle évolue très lentement. Ce qui fait que si la maladie débute, par exemple, à 89 ans, 90 ans, il est possible qu'on vienne à décéder d'une autre raison, parce qu'il y a un âge où il peut arriver qu'on décède, mais avant que la maladie pose vraiment souci. Cette maladie, elle est aussi essentielle parce qu'on a envie de la décrire précisément. Et puis le pronostic est différent puisqu'elle est entre guillemets plus douce. Elle évolue moins vite que la maladie d'Alzheimer. Donc voilà en quelques mots trois de ces maladies dites apparentées. Mais vous voyez, je trouve qu'elles sont très très différentes, à part qu'elles touchent la cognition. On a parlé de la maladie d'Alzheimer tout à l'heure, la maladie à corps de Lévy avec notamment ses hallucinations visuelles, ses manifestations la nuit, la maladie frontotemporale qui donne un défaut du contrôle de l'inhibition, et puis l'encéphalopathie late, qui touche surtout la mémoire et qui évolue très lentement. Pourquoi est-ce essentiel de les différencier ? Je crois, dès aujourd'hui, pour comprendre et expliquer les symptômes. On a pris l'exemple des hallucinations dans la maladie à corps de Lévy, les modifications du comportement dans les DLFT, de dire « votre épouse, votre mari, il n'y peut rien, il est malade ». Quelqu'un qui dit « j'ai très mal au genou parce que j'ai de l'arthrose », si on fait une balade, on ne va pas lui dire « allez, marche plus vite, enfin, j'aimerais bien que tu ailles plus vite ». Là, c'est la même chose. Quelqu'un qui a du mal à se contrôler, qui a des oublis, qui a des hallucinations, de le savoir, ça permet aussi pour tout le monde d'accepter les symptômes et de l'accompagner. Et une des modalités de la prise en charge de ces maladies, c'est aussi que l'entourage puisse accepter la maladie et avoir l'attitude dans la mesure du possible. Et parfois, c'est difficile, il faut accepter que ce soit difficile, mais la plus adaptée pour faire face à ces symptômes difficiles. Ensuite, pour la recherche et donc pour les patients de demain, ce sont des maladies différentes. Donc, il faut qu'on fasse des progrès pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Quel est, on dit, le substrat physiopathologique, quelles sont les modifications des réseaux de neurones, des protéines qui conduisent à ces symptômes et aussi comment les mesurer. Encore une fois, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait mesurer la pathologie Alzheimer in vivo avec le PET et la ponction lombaire et la prise de sang. On est capable aujourd'hui, avec un niveau de précision très fort, de mesurer la pathologie amyloïde et tau. Aujourd'hui, on n'est pas capable de mesurer ces autres protéines, alpha-synucléine pour la maladie à corps de Lévy. On est en train d'y arriver dans la ponction lombaire, mais c'est balbutiant, on va dire, c'est le début. En revanche, l'autre protéine, TDP43, on n'est pas capable de le mesurer. On n'a aucun moyen de confirmer ces maladies du vivant des personnes. Donc vous voyez les progrès qu'on a décrits depuis 20 ans dans la maladie d'Alzheimer, il reste à faire pour ces autres maladies. Et enfin, pour prendre en soin, évidemment, les projets médicamenteux, les médicaments qu'a présenté le professeur Dubois, ce sont des anticorps anti-amyloïdes. Ça cible donc la protéine qui est en cause. On n'a pas parlé des autres protéines. Et donc, on pourrait imaginer peut-être que le futur, ce serait de traiter les maladies à corps de Lévy avec un anticorps dirigé contre la protéine impliquée, en l'occurrence alpha-synucléine, ou contre l'autre maladie, contre la protéine spécifique. Donc, de mieux les comprendre, ça permettra de cibler les processus physiopathologiques de façon très personnalisée et très précise. Par ailleurs, au-delà de ces médicaments dont l'ambition serait de bloquer la maladie, on donne dès aujourd'hui des médicaments qui s'appellent symptomatiques, qui agissent sur les symptômes de la maladie. Les symptômes étant différents, il faut les connaître pour les traiter. Et souvent, ces symptômes sont dus à un défaut de neurotransmission. Et il existe aujourd'hui des médicaments qui permettent d'augmenter, par exemple, le niveau des neurotransmetteurs, donc ces molécules qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. On est capable de modifier cette balance de neurotransmission. Et c'est très différent qu'il s'agisse d'une maladie à corps de Lévy, d'une maladie d'Alzheimer ou d'une dégénérescence frontotemporale. Les neurotransmetteurs impliqués n'étant pas les mêmes, évidemment, le traitement ne sera pas le même. Et enfin, dans certaines de ces maladies, on peut aussi faire des erreurs médicamenteuses. À mal la connaître, on peut prescrire un médicament qui sera très mal toléré. Et donc, ce n'est pas tolérable, c'est le cas de le dire. Et enfin, la prise en soin ne concerne pas que les médicaments. Il y a des modalités non médicamenteuses qui sont essentielles et encore une fois, qui sont différentes selon les maladies. Et il y a un élément qui est majeur de la prise en charge. Vous le savez, j'ai vu des représentants tout à l'heure de France Alzheimer local et maladies apparentées. Il y a des associations de patients et il y en a pour chacune de ces maladies. Et donc, de pouvoir orienter, c'est aussi essentiel dans la prise en charge. Bon, faut-il parler de maladies apparentées ? Je vais vous laisser travailler un petit peu, parce que je ne suis pas le seul à travailler, on va un petit peu changer de domaine, mais je vais vous demander si vous arrivez à faire un diagnostic. Vous voyez un homme de 67 ans qui dit qu'il a beaucoup de température, il a de la fièvre qui est importante, il a des maux de tête, il a une toux sèche. Depuis 2-3 ans, on est habitué à ces symptômes, nous tous, quel est votre diagnostic ? En fait, on n'est pas capable. Je ne suis pas capable de faire un diagnostic précis. En revanche, il a un syndrome. Et ce syndrome, vous le connaissez, ça s'appelle le syndrome grippal. Je suis fatigué, j'ai des courbatures, j'ai des maux de tête, j'ai de la fièvre. C'est un syndrome grippal. En revanche, quelle est l'étiologie, c'est-à-dire quelle est la cause de ce syndrome grippal ? Il y a un virus qui est le virus influenza, qui est le virus de la grippe, qui peut donner ça. Il y a le coronavirus, je crois, le Covid-19, on connaît tous. Ça peut aussi être une pneumopathie bactérienne qui parfois peut se présenter comme ça. Donc vous voyez, face à trois symptômes, on a un syndrome commun, mais plusieurs causes possibles. Sauf qu'à ma connaissance, on n'a jamais dit que le Covid, c'était une maladie apparentée à la grippe ou que la pneumopathie, c'était une maladie apparentée à la grippe. On a chacune des maladies et de bien les nommer, ça permet de bien les prendre en charge. Ce même patient, donc là, c'est un peu plus le domaine, je ne vois pas trop de syndrome grippo, il a des pertes de mémoire, des difficultés à trouver les mots, des difficultés à gérer les tâches du quotidien. Donc là, le raisonnement est exactement le même. Il a un syndrome et son syndrome, ça s'appelle un trouble neurocognitif. Et en termes étiologiques, à ce stade, je ne suis pas capable de répondre à la question avec simplement ces trois items. Ça peut être une maladie d'Alzheimer, ça peut être une maladie à corps de Lévis, ça peut être une dégénérescence frontotemporale, et donc j'ai besoin d'en savoir plus. Mais bon, c'était simplement pour rajouter une citation, mais je crois qu'il est pertinent et que cette personne gagnera à savoir ce dont elle souffre. Et comme c'est différent de savoir si j'ai une pneumopathie bactérienne ou la grippe, ce n'est pas la même maladie, le pronostic est différent et la prise en charge est différente. Donc je ne vois pas pourquoi dans le domaine des troubles cognitifs, il ne faudrait pas raisonner ainsi. Enfin, et pour terminer, si vous me l'autorisez, ce sont des cas mais que j'ai déjà un peu étayés au fil de la discussion, donc ils vont aller vite, mais pour que vous puissiez un peu incarner, ce sont des cas assez stéréotypés. La réalité est que parfois, il peut y avoir des cas un peu plus complexes. Mais un homme, donc vous voyez, qui est plutôt assez jeune, de 62 ans, dont le principal symptôme sont des modifications du comportement, ces comportements de gloutonnerie, de difficulté d'empathie, difficulté d'organisation, et qui fait, à la lecture des symptômes, à l'examen qu'on n'a pas détaillé, neuropsychologique notamment, et l'IRM qui montre une diminution du volume dans les régions frontales, donc à l'avant du cerveau, poser un diagnostic de dégénérescence frontotemporale, ou DFT. Et c'est important. Je rajoutais un point, en quoi c'est différent de la maladie d'Alzheimer ? C'est très différent en fait, ce n'est pas la même protéine, donc potentiellement demain ce ne sera pas la même cible thérapeutique. Le traitement symptomatique pour le coup n'est pas du tout le même que dans la maladie d'Alzheimer, je ne vais pas du tout prescrire les mêmes médicaments. Ma façon de surveiller c'est très différent, on a parlé un peu de la génétique tout à l'heure qui dans la maladie d'Alzheimer est quelque chose de très exceptionnel, ça reste rare dans ces maladies mais c'est plus fréquent et donc un conseil génétique va être tout à fait différent dans cette maladie. Enfin ma surveillance va être différente, donc c'est une maladie qui est très différente de la maladie d'Alzheimer. Un autre exemple, quelqu'un qui a des oublis, qui le soir, c'est un homme, 74 ans, qui le soir voit des enfants dans sa chambre, personne d'autre ne les voit, donc il s'agit bien d'hallucinations visuelles. Il voit parfois des animaux, d'ailleurs, soit dit en passant, c'est aussi quelque chose d'important, souvent ces hallucinations sont très bien tolérées, n'entraînent aucun stress, aucune émotion, parfois oui, et puis souvent on dit, je vois un chien qui regarde la télévision avec moi le soir, et c'est pas grave, ça le dérange pas du tout, et ça c'est important, parce que du coup il n'y a pas de conséquences médicamenteuses. Il y a un sommeil très agité, une lenteur, et donc le diagnostic était celui d'une maladie à corps de Lévis. Et là, encore une fois, c'est très différent de la maladie d'Alzheimer. C'est une protéine différente, les traitements et symptomatiques sont différents, la façon dont on le surveille, c'est différent. Et de façon très importante, dans cette maladie, il y a des médicaments qui sont interdits, qui aggravent les symptômes de la maladie. Et enfin, une autre patiente qu'on a vue l'année dernière, qui avait 88 ans, à la première consultation, qui se plaignait de sa mémoire déjà depuis 3 ans, et qui avait des difficultés de mémoire significative, mais vraiment uniquement de la mémoire. Toutes les autres fonctions cognitives étaient intègres, et là, à 3-4 ans du début des symptômes, elle reste complètement indépendante, elle a besoin de personne pour gérer les choses dans le quotidien. Elle a 88 ans, malgré ses oublis, et le diagnostic, je ne rentre pas dans le détail des examens d'imagerie du cerveau, mais c'est cette fameuse encéphalopathie à TDP43, probable, je ne peux pas en être sûr, je vous ai dit que je ne suis pas capable de mesurer cette protéine, donc c'est une suspicion diagnostique, c'est le plus probable. Et là, encore une fois, c'était pertinent de faire un diagnostic, parce que le pronostic est différent, déjà c'est pas la même protéine, et puis je sais que je suis rassuré sur l'évolution. Ça fait déjà 4-5 ans que ça a peu évolué, que l'indépendance est préservée. Je connais évidemment pas son espérance de vie, comme pour personne, mais j'ai l'impression qu'on est dans un processus qui est très peu agressif, et donc c'est important de le savoir aussi pour elle, aussi pour sa famille. Voilà donc quelques exemples. En conclusion, voilà l'inventaire de Prévert. J'ai essayé de ne pas le faire, mais quand même, c'était difficile. Donc j'espère que vous êtes arrivé quand même à suivre. Il y en a d'autres, il y a des dizaines de maladies dont on n'a pas parlé, mais ce n'était pas l'objectif et ce n'était pas possible en 20 minutes. On n'a pas non plus parlé d'un concept qui est celui des co-lésions, des copathologies. L'âge étant un facteur de risque de la plupart de ces maladies, qui ne sont pas inéluctables. On peut très bien avoir 100 ans et ne pas avoir de maladie dans le cerveau. Toutefois, le risque est plus important en prenant de l'âge, mais aussi d'accumuler ces maladies, parce qu'on peut en avoir une, mais on peut aussi en avoir deux, trois ou quatre, et qui parfois complexifient la symptomatologie et donc complexifient également la prise en charge. En conclusion, je voulais dire que de nombreuses pathologies peuvent être considérées apparentées. On en a pris deux, trois en exemple, mais il y en a d'autres. Mal les connaître et mal les nommer, je pense que ça constitue une perte de chance pour les patients. Et donc, c'est important de faire des diagnostics précis pour mieux les prendre en charge. Et enfin, ce diagnostic vient de l'analyse clinique, du bilan neuropsychologique, de l'évaluation parfois de l'orthophoniste, des examens parfois complexes, on a parlé de ponction lombaire, de prise de sang, d'IRM, d'examens qui s'appellent des PET scanners. Mais parfois, ce sont les seuls moyens d'avoir un diagnostic de grande précision, et c'est cette précision qui va permettre une prise en charge personnalisée, parce qu'on parle des grandes études à l'échelle du groupe, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre en charge le patient ou la patiente qui est en face de nous. Et vous rappelez la première diapositive, c'est de la complexité. Chaque personne est différente, a d'autres maladies, d'autres problèmes de santé, d'autres capacités de résilience, d'autres façons d'avoir un bon moral ou un mauvais moral, d'être anxieux, etc. Et donc, cette précision est, je pense, nécessaire pour une prise en charge vraiment personnalisée, et c'est ce qui, je crois, est à recommander. Je vous remercie de votre attention.
Merci, docteur. Alors, on va prendre vos questions tout de suite. Je vais juste vous rappeler, n'hésitez pas, il y a des personnes dans la salle, il y a des petits papiers, si vous voulez poser vos questions aussi sur les petits papiers, nous les faire suivre. Et sinon, il y a les micros, donc mesdames circulent avec les micros, donc si vous souhaitez intervenir et interroger le docteur. Alors, je crois qu'il y a une question juste là, madame. Bonjour. On arrive vers vous.
Merci. Vous avez parlé de l'AVC. Je pensais que ce n'était pas une maladie qui s'aggravait forcément, puisque je pensais qu'au niveau des... des orthophonistes, elles arrivaient à faire récupérer une partie de la mémoire. Donc, pouvez-vous me confirmer ou m'infirmer ?
Oui, merci de votre question. En effet, j'ai pris les AVC à titre d'exemple pour expliquer quelles pouvaient être des artères bouchées dans le cerveau et les symptômes que donnent les AVC. Beaucoup d'AVC, en effet, parfois n'ont même pas de symptômes cognitifs, touchent par exemple uniquement des régions de motricité, c'est mon bras droit, ma bouche, et ça n'a aucun impact sur la cognition. Et même s'il y a un impact sur la cognition, il est possible de récupérer, et même de récupérer ad integrum, sans qu'il n'y ait aucune séquelle cognitive. Mais ce n'est pas le cas de tous. Parfois, on peut garder des séquelles, et il y a certains AVC qui touchent notamment des régions dites stratégiques, une petite région parfois du cerveau, mais qui est toute petite, mais trop importante pour la mémorisation, et on peut garder une séquelle. Et autre chose que l'AVC, qui est souvent une artère, souvent une moyenne ou grosse artère, qui se bouche brutalement. On se rappelle que dimanche dernier, à 18h, brutalement, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est l'accident vasculaire cérébral. Mais il y a une autre maladie qui affecte les vaisseaux du cerveau, qui s'appelle la maladie des petits vaisseaux cérébraux ou la maladie des petites artères cérébrales, qui entraîne des artères qui s'abîment, mais à bas bruit, tout doucement, sur 5, 10, 15, 20 ou 30 ans, et donc il n'y a pas de jour où on se dit « aujourd'hui, je suis tombé malade », mais qui, à terme, influence le fonctionnement du cerveau et peut donner des troubles cognitifs, et notamment des troubles de la mémoire. Dans cette maladie, si on arrive à bloquer ces artères qui s'abîment, par exemple en contrôlant la tension, il est fort probable que ça n'évolue pas et ça peut rester stable dans le temps. En revanche, il y a des cas où, malgré tout, on n'arrive pas à contrôler ces facteurs de risque et les artères continuent de s'abîmer avec le temps, et donc la maladie évolue. Même si ce n'est pas stricto sensu une maladie neurodégénérative qui va toucher en premier lieu les neurones, ça touche les vaisseaux, mais les vaisseaux abîmés abîment les neurones.
Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait une deuxième question. Voilà, juste.
Bonjour, je reviens sur la maladie à corps de Lévy. Vous nous avez parlé qu'il y avait des médicaments qui étaient interdits. Vous parlez également de dépression et d'hypersensibilité aux neuroleptiques. Qu'est-ce que vous pensez des antidépresseurs utilisés dans le cadre de cette maladie ?
En effet, c'est une maladie qui touche préférentiellement certains neurones de la voie du cerveau qui génèrent et qui utilisent beaucoup la dopamine. Et les neuroleptiques sont des médicaments, donc neuroleptiques ont un synonyme, c'est antipsychotique, et qui bloquent les récepteurs de la dopamine, parfois pour arrêter certains symptômes comme le délire, les hallucinations. Dans cette maladie, comme c'est une voie qui est déjà très faible en dopamine, si en plus on bloque les récepteurs, ça peut, dans certains cas, aggraver fortement les symptômes moteurs avec de la rigidité, des difficultés à marcher, etc. Et puis, ça peut aggraver aussi les symptômes cognitifs. Le but, ce n'est pas de rentrer dans le détail. Il y a certains neuroleptiques qui, toutefois, sont autorisés. Donc, dans certains cas, quand on est sûr du diagnostic, qu'on connaît ces molécules, on est amené parfois à prescrire certains médicaments de ces molécules. Pour la question de la dépression et, on va dire, de l'anxiété, puisque l'anxiété est presque systématique dans cette maladie, et la dépression est également très fréquente. Comme dans toutes les maladies neurocognitives, c'est très prévalent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des affects ou des symptômes dépressifs, parfois même en début de maladie, le diagnostic est difficile entre les deux, et puis parfois les deux coexistent, et dans la maladie à corps de Lévy notamment, et au-delà de la dépression, vraiment l'anxiété, on a même des présentations de troubles anxieux généralisés, d'attaques de panique, de très 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 grande anxiété, dont les traitements de première intention sont en effet les antidépresseurs, qui dans la majorité des cas sont tolérés et aident vraiment à diminuer le niveau d'anxiété. Donc beaucoup d'antidépresseurs, je parle en tout cas des récents, pas des antidépresseurs qu'on utilisait il y a plusieurs années, notamment les antidépresseurs tricycliques, mais qu'on donne presque plus aujourd'hui en première intention, sont autorisés et on en prescrit fréquemment dans ces maladies.
Je vais vous poser également une question pour faire le lien qui vient de nous parvenir. Donc, il y a maintenant de nouveaux traitements médicamenteux. Quelles conséquences sur les anciens médicaments non remboursés, tels que la mémantine, si je ne dis pas de bêtises?
Alors, je pense que je vais essayer d'y répondre. Ça sort... Est-ce que vous voulez que j'en parle dans le champ de la maladie d'Alzheimer ou des maladies dont je viens de parler?
Alors, il y avait une première question tout à l'heure qui nous est arrivée après pour le professeur Dubois, en lien avec la maladie d'Alzheimer. D'accord. Et là, je pense que ça fait le lien avec les autres maladies également.
Alors, on peut en parler au sens large, mais déjà, les médicaments dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle symptomatiques et dont l'indication est la maladie d'Alzheimer. Donc, ce sont des médicaments, parfois, qu'on utilise, mais qui ne sont pas indiqués stricto sensu dans les maladies dont je viens de parler. Donc, on va sortir de ces maladies, on va revenir à la maladie d'Alzheimer dont on parlait tout à l'heure. C'est une maladie donc, qui affecte des neurones, et notamment des neurones qui discutent entre eux à l'aide de neurotransmetteurs. Et il y a une région du cerveau qui est particulièrement atteinte, c'est les régions cholinergique, donc de l'acétylcholine, qui est un des neurotransmetteurs principaux. Il s'avère que dans la maladie d'Alzheimer, il y a moins d'acétylcholine que quand on n'a pas la maladie d'Alzheimer. Et donc l'idée de ces traitements, c'était de bloquer la protéine qui détruit l'acétylcholine pour qu'il y ait un peu plus d'acétylcholine dans le cerveau. Ces traitements, donc, il y a la mémantine dont vous avez parlé, et puis il y en a trois, le donépezil, la galantamine, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui étaient utilisés pour augmenter le niveau de neurotransmetteurs et qui ont un bénéfice clinique prouvé, significatif contre le placebo. Les personnes dans les études qui prenaient ces médicaments, à la fin de l'étude, donc souvent après 6 mois, c'était des études assez courtes à l'époque, avaient des performances cognitives, donc des tests, qui étaient meilleurs chez ceux qui avaient le traitement que chez ceux qui avaient le placebo. Ça, on n'en a aucun doute, tout le monde le sait. En revanche, c'était meilleur de pas beaucoup. La différence entre les deux groupes était pas au point où on est sûr qu'il n'y a aucun doute que ça marche très bien. On est sûr qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas sûr que ce soit suffisant pour nécessiter de le prescrire à large échelle à tout le monde. Et en raison de cette question, et puis on ne va pas du tout rentrer dans le détail et ce qui a évolué, en 2016, il y a une commission de transparence de la HAS qui a plutôt recommandé de ne plus rembourser ces médicaments, et ça a été effectif en août 2018. Ils ne sont plus remboursés. En revanche, ils gardent une autorisation de mise sur marché, et donc on a le droit de les prescrire, et les gens ont les droits de les acheter. Simplement, il n'est plus pris en charge par l'assurance maladie, par la solidarité nationale. Le point de vue de toutes les sociétés qui s'occupent de ces maladies, donc que ce soit les sociétés de neurologie, de gériatrie, de la Fédération des centres mémoire, c'était plutôt que c'était dommage de ne plus rembourser ces médicaments qui n'ont jamais été le médicament qui bloque la maladie, n'ont jamais été vendus ainsi, mais qui, dans tous les éléments de la prise en charge, étaient probablement pour certains patients, et pas tous, un point supplémentaire qui pouvait aider à aller du mieux possible. En étant très prudent et en sachant bien que ce n'est pas des médicaments qui vont bloquer la maladie et que ces médicaments seuls, c'est des médicaments au sein d'une intervention globale non médicamenteuse et médicamenteuse. Donc dans certains cas, on continue à les prescrire, certainement moins qu'avant, pour plein de raisons et de façon très ciblée en discutant aussi avec les personnes. Et pour parler de ces médicaments, simplement, il semble quand même, selon beaucoup d'avis d'experts et aussi d'études, que dans la maladie à corps de Lévy spécifiquement, il puisse être la taille d'effet de l'efficacité peut-être plus important que dans la maladie d'Alzheimer. Ils peuvent même arrêter des hallucinations, améliorer l'anxiété, améliorer la mémoire. Donc, c'est une maladie, par exemple, où on va être vraiment plus tenté de les prescrire. Et c'est un exemple, la DFT, l'autre maladie, pas du tout. Ce n'est pas du tout les mêmes voies de neurotransmission. Et donc, ce n'est pas un médicament qu'on va prescrire dans ces maladies.
Mais écoutez, merci encore.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour votre intervention très claire.